8h14 minutes, monsieur de Lichagnon a commencé ses petites fugues, ses escapades estivales. Il est allé faire un tour et puis il observe les gens. D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui semble avoir un comportement étrange, n'appelez pas la police. C'est monsieur de Lichagnon, surtout s'il sourit. Parce qu'il a toujours un beau sourire dans le visage. Ouais. Qui est assis, qui regarde et qui vous parle. Mais ne prenez pas panique. Je sais que c'est pas l'habitude. On est en train d'instituer un nouveau mouvement. Et pour nous parler de ces petites escapades, ben je l'accueille, M. Denis Chagnon, marcheur devant l'Éternel, l'homme qui marche partout, partout, partout.
Ah, quelle belle introduction. Merci beaucoup, Michel.
J'avais plus de souffle. Faut que je m'arrête quelque
deux
part.
Deux traits comme ça. Extraordinaire.
Faut que je m'oxygène. Bonjour, Denis.
Bonjour, Michel.
Alors, tu as commencé à faire ces petites fugues.
Oui, ben j'en avais parlé que cet été, je passe beaucoup de temps à marcher au Québec. Et j'ai décidé de commencer maintenant.
Oui.
Avec notre très beau parc
du Mont-Saint-Bruno.
Mont-Saint-Bruno.
Ouais.
Parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Et j'ai pensé parler de mes trois coups de cœur.
Ah.
Lorsque je fais normalement, parce que je le fais assez souvent, ce merveilleux parc.
Et voilà. Coup de cœur et coup d'œil.
Et coup d'œil et coup d'oreille.
Coup d'oreille
également.
Oui, parce que c'est vrai qu'on entend et on voit aussi en même temps. On ne fait pas juste visiter un parc, on l'écoute.
On écoute et puis on essaie d'écouter ce que les gens disent, mais surtout les oiseaux, parce qu'il y a 270 espèces d'oiseaux. Qu'on peut lire. Oui. C'est incroyable, c'est sur les fiches techniques.
Là, tu as tout vérifié ou c'est comme ça?
Vu deux, trois. Là. Mais on en avait parlé. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'application téléphone, on peut enregistrer le son des oiseaux et ça nous donne tout de suite, ça identifie l'oiseau, la famille et toutes sortes de renseignements sur l'oiseau.
Ah oui.
Alors, c'est une autre façon de visiter.
Et c'est très précis.
C'est très précis. Je l'ai fait beaucoup dans le Vieux-Longueuil. On en avait parlé il y a longtemps. Et puis, c'est vraiment étonnant.
Même si l'oiseau a le rhume, on le reconnaît.
Surtout le rouge-gorge. Hein? Oui.
C'est pas ça. C'est la gorge irritée. Bon, t'es allé faire un tour au Mont-Saint-Bruno.
Ben oui, c'est ça. Oui, puis écoute, c'est un beau parc. C'est à proximité de Montréal. Moi, je viens en autobus, hein. À partir de la station Longueuil, c'est direct, il n'y a presque pas d'arrêt et on te dépose au parc. Et bien là, tu déambules un peu. Il y a quand même 1 million de personnes qui vous visitent à chaque année. Alors, c'est étonnant. Ben, c'est ouvert été-hiver pour tous les sports. Hein. La course à pied, évidemment, la marche.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens quand tu es allé?
Il y en avait un petit peu moins parce que la saison commence, je trouve. Hein. Puis c'était encore un peu frisquet. Hein. Et puis, mais ça commençait, puis on voit toutes sortes de gens, on voit des clubs de marche, je me souviens, j'avais accompagné une fois un club de marche de non-voyants.
Ah oui!
Et puis, c'était étonnant parce qu'ils avaient leur accompagnateur, tous et toutes. Et puis, évidemment, c'était pas tellement visuel pour eux,
mais
ils ont l'oreille affinée. Hein, ils
C'est ça.
Les oiseaux,
Le nez aussi, l'odorat.
L'odorat,
forcément, on compense.
Hein? On compense. Oui. Et puis, j'ai trouvé ça une expérience parce qu'on dialoguait un peu, on échangeait avec ces gens-là. Puis, ils m'ont fait remarquer des sons, justement, et des parfums de plantes. Quelques moufettes, mais tu as raison, ils sont lourds, très affinés.
Ils peuvent savoir si c'est un mâle ou une femelle.
Mais c'est, c'était une expérience très intéressante. Et puis, il y a des gens qui voient des voisins parce que le parc est à proximité de Saint-Bruno, la ville ou la communauté, et puis la municipalité. Et puis,
est-ce qu'il est ouvert 24 heures?
Non, il est ouvert à 8 heures jusqu'à un peu la noirceur, là, parce que c'est moins agréable le soir. Mais ça ouvre à 8 heures. Mais j'ai des amis qui habitent vraiment là. Quand on dit à deux pas, là, on traverse la rue et on se trouve dans le parc. Ça, c'est génial. Il y a plusieurs maisons qui contournent, qui sont autour du parc. Et puis, c'est ça. Alors, c'est vraiment une expérience. Il y a 27 000 de kilomètres quand même. La dimension est de 8,8 kilomètres carrés, donc c'est quand même grand. C'est pas le plus grand parc national du Québec, évidemment, mais avec 1 million de visiteurs.
Non, mais il est à côté,
à proximité. On y va en voiture, on y va en transport, en commun. Alors, il est accessible à tout le monde. C'est vraiment formidable.
Et on peut quand même... on peut parler d'escalade, même s'il n'est pas très haut.
Ben, le dénivelé, il est de 218 mètres, mais ça monte et ça descend. C'est accidenté juste pour rendre le tout agréable et un bon exercice, surtout si on court. Et puis, mais facile pour tout le monde. Alors, tout le monde vraiment peut s'y mettre. Il y a même des cours de formation aussi de marche nordique, de marche rapide. Alors, on fait un peu de tout. Il y a beaucoup de vélos aussi, hein?
Ah oui, ben oui.
C'est ça.
C'est un incontournable.
Et puis, normalement, le vivre ensemble est assez bien respecté.
Ah, oui,
c'est ça. Parce qu'il y a des sections où il y a des...
On devrait pas réagir. On devrait pas réagir comme ça.
Ça arrive des fois. Hey. C'est parce que, surtout les fins de semaine, quand
il fait
beau,
les gens se respectent vraiment.
Oui, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe?
On est sur une autre planète.
Et puis, où en étais-je, c'est ça, parce qu'il y a certains des sentiers, les sentiers, non, les, à moins que ce soit des vélos de montagne, mais je pense qu'on ne permet pas. Les fat bikes, comme on dit,
ça,
on
peut y aller.
Mais,
pneus, là.
Oui, c'est les gros pneus. Et puis, mais il y a certaines routes qui sont presque asphaltées ou bien entretenues parce que, et c'était mon premier coup de cœur, aussi mon premier coup de cœur, il y a des résidences extraordinaires à ces endroits-là. Il y en a 10, hein, dans le fond. Oui. Puis je l'appelle les manoirs parce qu'on remonte au début du 20e siècle. L'ancien président de la Banque royale, parce que c'était un lieu de villégiature à un moment donné pour les riches commerçants de la ville de Montréal qui voulaient s'évader un peu de la ville. Et le premier président de la Banque royale, tombé en amour avec le lieu, a acheté une grande propriété et ensuite l'a revendue à une société en coopérative un peu, là, mais toujours des riches milliardaires ou millionnaires de l'époque. Et puis, un de ces gens, c'était... les membres étaient George Alexander Drummond, de la rue Drummond à Montréal, qui était aussi, lui, le président de la Banque de Montréal. Donc, c'était des gens quand même assez fortunés. Et de 1918 à 1940, ils ont construit ces 10 maisons, mais absolument époustouflantes. Et on les voit lorsqu'on marche dans le parc. C'est ça qui est étonnant. Et on parlait un petit peu de vivre ensemble. Et c'est intéressant quand même parce que ces gens-là ont des droits acquis. Hein? Lorsqu'ils ont construit, lorsqu'après que le gouvernement du Québec a acheté le territoire, le Mont-Saint-Bruno...
Mais j'allais te poser la question, ça appartient au gouvernement du Québec?
Non, ça appartient aux propriétaires.
Le Mont-Saint-Bruno?
Le Mont-Saint-Bruno, oui, au gouvernement du Québec.
C'est ça, le Mont-Saint-Bruno.
Oui. Mais les gens ont gardé leurs droits.
Oui, on ne peut pas les expulser.
Ben, c'est ça. Ouais. Et puis, heureusement, parce que ces gens-là ont de superbes maisons, bien entretenues. Ils sont assez fortunés pour le faire, évidemment. Et je suis allé par curiosité.
Est-ce que tu es allé frapper à une porte pour dire bonjour? Je fais une chronique et j'aimerais savoir. Êtes-vous le président de la Banque de Montréal?
Ou le fils de, ou le petit-fils de?
Le petit-fils de.
Mais je suis allé sur les sites d'immobilier.
Oui.
Et puis il y en a une qui est à vendre. Et je t'ai envoyé la photo.
Ah, oui, oui.
C'est la maison sur le bord du lac Seigneurial. Et elle est à vendre pour 8 millions.
Ouais.
Mais on voit que...
Je n'aime pas la couleur.
c'est un peu moche. Là. Mais non, on voit que c'est bien entretenu. Mais l'autre photo que je t'ai envoyée, on dirait une petite maison, une grande maison de contes de fées, bonbons un petit peu.
Oui, c'est vrai.
Et puis,
maison de
c'est
pain.
Très joli. Oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et puis, mais ils ont gardé quand même, dans la plupart des cas, ils ont gardé l'architecture originale. Donc, on se promène dans le parc, on voit les petits animaux, on écoute les oiseaux, on voit nos amis, les autres marcheurs, mais aussi, on peut admirer ces maisons qui nous rappellent une autre époque, l'histoire de Montréal, l'histoire de la région. Et ça, c'est mon premier petit coup de cœur.
Mais c'est devenu un peu, ça fait partie du décor, c'est ça l'affaire. C'est... Historiquement, ils se sont implantés là, mais aujourd'hui,
c'est ça.
C'est comme si on se retrempe dans l'histoire. Fait que c'est, il y a l'utile à l'agréable.
Oui, c'est ça. Et puis, étant donné qu'ils en prennent soin, c'est un peu ce vivre ensemble, les résidents, si tu veux. veut, c'est pas l'urbanisation évidemment là, mais on a ces grandes maisons côtoyées ou nichées si tu veux dans ce parc près des lacs. Moi je trouve ça quand oui. même un bel exemple.
La cohabitation se fait bien.
La cohabitation se fait bien.
Bon, oui. Et là tu as le vieux moulin aussi qui était, je le vois là, tu me
dis. Ben oui, le vieux moulin photo. Qui date de 1725. Ben c'est parce que c'est grâce aux cinq lacs qu'on a construit beaucoup de maisons à l'époque pour toutes sortes de raisons manufacturières, alimentées en électricité et toutes sortes de services. Et ils sont tous disparus, surtout celui-là de 1725. Et on l'a remarqué...
1725?
Ben oui, c'est 300 ans cette année, ou en fait l'année passée. Et puis, merveilleusement bien. Et on l'a transformé en café, en thé, en salon de thé. Donc, lorsqu'on finit notre petite promenade...
Oh, c'est ouvert au public.
Ouvert
là.
Au public, mmh. Oui, oui. C'est pour ça qu'on peut se détendre de façon extraordinaire.
C'est un moulin de à quoi? De moulin à farine?
Celui-là, je ne sais pas. Je ne connais pas toute l'histoire de celui-là en particulier, mais ça servait aux entreprises ou manufacturières, justement, des richissimes qui habitaient là, tu vois.
Mais on peut, tu disais, c'est fermé la nuit.
Oui.
Mais il y a des excursions nocturnes qu'on peut quand même faire, guider.
Puis il y en a au mois de juillet, il faut réserver à l'avance un peu, mais avec un guide, il y a certaines au mois de juillet où on peut participer à ces visites nocturnes pour voir comment il l'appelle, le bal des lucioles, en fait, toutes les petites lumières dans le ciel. Et puis, on parlait d'odorat tantôt.
Oui.
Ben, le soir, les petits rongeurs sortent un petit peu plus. Oui. Là, on s'amuse un peu plus. Alors, avec le guide, on peut reconnaître... là, c'est le nez qui entre en jeu, comme on disait tout à l'heure, là. L'odeur d'une moufette ou d'un autre animal, ou le bruit que fait, je ne sais pas, un raton laveur, par exemple. Alors, il semble que ce soit très intéressant, et il y en a plusieurs qui sont offertes au mois de juillet.
Mais alors, il faut réserver. Raton laveur, si on peut voir ça, des hiboux?
Des hiboux. Oui, voilà, oui.
Ah non, mais j'imagine qu'on... Mais c'est à quelle heure qu'on voit un hibou, parce que...
Bon, on peut l'entendre, évidemment.
Moi, je ne veux pas me déplacer pour rien. Je veux voir un hibou.
Je l'entends, mais je veux le voir.
Mais bon, c'est un gros oiseau, ben, des griffes.
Oui. C'est incroyable. Impressionnant. Et puis, il y en a qui sont gros. Et puis, j'ai un troisième coup de cœur.
Oui.
Qui est... En fait, ça, je ne sais pas si on a le temps, mais un rapidement l'histoire, lorsqu'il y a eu le développement de ce lieu de villégiature. En même temps, il y a certaines communautés religieuses de Montréal qui, pour fuir la ville, parce que déjà il y avait trop de bruit à l'époque, mais surtout pour survenir aux besoins alimentaires de leur congrégation, se sont procurés des lots sur le mont. En bordure du mont. Et puis...
Pas loin des gens riches, ils peuvent aller solliciter pour des dons.
Pas si mal, ce déductible d'impôt.
Écoute, le pépendi, là.
Pas fou, hein, pas fou. Et puis, il y a eu les Jésuites et les frères Gabriel, entre autres. Et puis, ils ont acheté des propriétés. Les frères de Saint-Gabriel ont acheté les propriétés des Jésuites et en ont fait un verger. Ils ont cultivé la pomme. Le verger est toujours disponible à la visite. Et puis, il y avait aussi, un arboretum.
Un arboretum.
Un arboretum.
Un arboretum, ça, c'est pour les arbres, bien sûr.
Pas pour les arbres, bien sûr. Et puis...
Mais c'est pas à l'intérieur.
Non, non, c'est à l'extérieur, c'est ça. Oui. Et c'est toujours en fonction... Il fonctionne toujours, on peut le visiter. Et ce que j'ai trouvé intéressant, celui qui l'a développé, et c'est le frère Gabrielis. Et puis, qui était un ami du frère Marie-Victorin, qui a créé le Jardin botanique à Montréal. Alors, c'était des bons amis. Ils se sont partagés des plantes comme ça.
Et je rappelle
c'est vraiment intéressant.
Tout ça, c'est à pied qu'on découvre.
Ben, c'est ça.
Finalement, puis ça vaut la peine.
Alors, il y a la visite, bien sûr. On s'amuse, on marche partout. Mais ces trois coups de cœur, ça vaut la peine, je pense.
C'est superbe également.
D'aller voir,
aller faire un tour.
Ben, oui.
Et la pensée de la semaine?
Ben, un parc national n'est pas un terrain de jeu. C'est un sanctuaire pour la nature et pour les humains qui acceptent la nature telle qu'elle est.
Merci.